Bonjour à tous, vous écoutez Perspective, le podcast de développement personnel et transpersonnel qui vous aide à faire votre chemin intérieur afin de pouvoir impacter l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un conte taoïste qui est le conte du tailleur de pierre qui va peut-être venir nous indiquer deux, trois choses sur le fonctionnement de la psyché. On parlera aussi peut-être de désir mimétique, de René Girard, d'une sorte d'insatisfaction, de projection sur les autres, de choses que l'on pourrait avoir déjà en soi, mais qu'on ne voit qu'à l'extérieur. Et cette idée d'apprendre à accepter qui on est, tel que l'on est, et s'honorer en tant que cette belle singularité dans ce vaste monde infini de possibilités. Ça commence. Un tailleur de pierre fort habile venait au pied d'une montagne. Il avait le don pour choisir les meilleurs blocs de la carrière, les extraire en un tour de main et les tailler avec adresse. La maîtrise de son art lui valut une belle réputation qui fut colportée jusqu'au chef-lieu du canton. Un riche commerçant le fit venir pour lui commander des marches de grès rose afin de remplacer son vieil escalier de bois vermoulu. Pendant son travail, le tailleur eut tout le loisir d'apprécier la splendide demeure du bourgeois, ses meubles de bois précieux, ses mets plantureux, ses nombreux serviteurs, sa femme et sa concubine pomponnées dans leurs robes de soie. Quand l'artisan rentra chez lui, le contraste fut si saisissant qu'il en eut du vague à l'âme. Malgré son talent, il s'étreignait pour parvenir tout juste à nourrir sa nombreuse descendance. Il était condamné à vivre dans une masure étroite et enfumée, à manger du gruau de riz en compagnie de sa femme mal fagotée, au milieu de leur bruyante marmaille. Jamais il n'aurait la belle vie du bourgeois. Le lendemain, le tailleur de pierre partit pour la montagne. N'ayant plus le cœur à l'ouvrage, il quitta le sentier qui conduisait à la carrière et grimpa celui qui menait à la cabane de bambou d'un taoïste. Le vieil ermite, que l'on disait immortel et magicien, lui servit une tisane douce amère et lui demanda quel tourment l'avait conduit jusqu'à sa modeste retraite. L'artisan lui conta sa visite chez le bourgeois et, à la fin, se lamenta sur son sort. « Qui a perdu l'illusion de ce monde mouvant ?» répondit le sage. « Qui s'est ouvert au Tao ne voudrait pas échanger sa hutte contre un palais. Mais comment renoncer à ce qu'on ne connaît pas ?» Et le vieillard esquissa de la main une manière d'idéogramme, tout en murmurant quelques mots impénétrables. Le tailleur de pierre se retrouva aussitôt à la place du riche commerçant, dans sa somptueuse maison ornée d'un nouvel escalier de grès rose. Il ne se posa pas plus de questions et se hâta de croquer à pleines dents cette vie opulente et douillette. Quelques jours après, alors qu'il flânait dans la rue principale de la bourgade, le tailleur vit la foule s'écarter pour laisser passer un cortège. C'était le préfet en tournée d'inspection, confortablement installé dans un palanquin doré, entouré de ses laquais et de ses gardes rutilants. L'homme des montagnes, tout ébahi, resta au milieu du passage à contempler le spectacle, obligeant ainsi la procession à s'arrêter. Les gardes se ruèrent sur lui et présentèrent au mandarin le fâcheux qui avait eu l'outrecuidance d'arrêter son palanquin. Le dignitaire, furibond, le condamna à recevoir 100 coups de bâton et à payer 100 taëls d'argent. On n'outrage pas impunément le représentant du Fils du Ciel. Notre tailleur de pierre regretta de ne pas avoir souhaité plutôt être préfet et il se retrouva aussitôt dans le palanquin doré. Quand il découvrit le palais du mandarin, le tailleur de pierre n'en crut pas ses yeux. Bois laqué, statuettes de jade et d'ivoire, mais raffinées, concubines envoûtantes dans leurs délicates robes de satin, tout ce luxe lui faisait tourner la tête. Au comble du bonheur, il pensa qu'il était parvenu au royaume des immortels. Mais notre dignitaire, qui n'avait pas l'expérience de son prédécesseur, reçut un jour une convocation à la cité interdite où il lui fut signifié que son Altesse impériale, ayant eu de nombreuses plaintes à son sujet, le démettait de ses fonctions et l'envoyait combattre les barbares du Nord. Notre tailleur de pierre regretta de ne pas être empereur. Là, au moins, il n'aurait de compte à rendre à personne et il serait ainsi le maître du monde. Il jouirait d'ailleurs du plus grandiose palais que ses yeux mortels puissent contempler. Et par le pouvoir du taoïste de la montagne, le tailleur de pierre se retrouva assis sur le trône impérial. Le nouvel empereur, ne comprenant pas grand-chose à l'argot diplomatique ni à la langue de bois politique, laissa ses ministres gouverner à sa place. Il préféra jardiner dans le parc délicieusement paysagé de la cité interdite et se prélasser sur les divans accueillants du génécé. Et le tailleur de pierre, dans son innocence, avait mis en pratique, sans le savoir, le précepte de Lao Tzu. Par la vertu du non-agir, l'ordre naturel se maintient. Mais on ne s'improvise pas impunément fils du ciel, et sans doute négligea-t-il quelques rites ancestrales qui maintenaient l'harmonie entre le ciel et la terre. Une terrible sécheresse s'abattit sur l'empire du milieu. Les cours d'eau et les étangs furent à sec, les sources et les puits se tarirent. Même à l'ombre des murs du jardin de la cité interdite, la chaleur caniculaire fit des ravages. Sous le soleil de plomb, les pivoines, les roses, les orchidées, les bambous et les bosquets nains, moururent de soif entre les mains attendries de l'empereur. Le souverain le plus puissant du monde comprit que l'astre solaire lui était supérieur. Alors que le tailleur de pierre regretta ardemment de ne pas trôner à sa place dans le ciel, de sa lointaine montagne, le vieux taoïste capta aussitôt sa pensée, car, soudain, le tailleur de pierre insatiable se pavanait sur la voûte céleste. De là, il pouvait imposer son pouvoir à toute la surface de la terre, caresser et faire chanter la diversité des paysages, des choses et des êtres, et sans cesse admirer son œuvre renouvelée, jusqu'au jour où les nuages revinrent. Tout d'abord, il fut borgne, puis complètement aveugle. Il ne pouvait plus jouir du spectacle qu'il créait. Il enragea. Le nuage, cette vapeur inconsistante, était donc plus puissante que lui, fournaise ardente. Il regretta de ne pas être à sa place. Le sage de la montagne exécuta son petit tour de passe-passe et notre tailleur de pierre se retrouva nuage. Il fit quelque temps la nique au soleil, lui tirant nonchalamment son écran de fumée. Mais il fut bientôt emporté par un grand courant d'air taciturne qui le ballotta dans les six directions, l'effilocha, le déchira. Il était sans force entre les mains du vent. Il avait trouvé son maître, sans doute le plus puissant, le plus insaisissable de l'univers. Il regretta de ne pas y avoir pensé plus tôt. Par le pouvoir du vieux sage, le tailleur de pierre fut souffle de vent. Il prit de la vitesse, de la vigueur, se mua en redoutable ouragan. Il jouait à renverser les arbres, à souiller les toitures, à faire crouler les murs. Il fut arrêté par une haute montagne. Il s'acharna sur elle, tenta de l'ébranler, de la déraciner, de l'escalader, rien n'y fit. Il s'essouffla. Il avait donc trouvé plus fort que lui. Il souhaita être montagne. Et par la magie du Tao, le tailleur de pierre fut un pic altier, couronné de nuages. Il était inamovible et insensible à la neige et aux rayons du soleil. Il pensait avoir atteint la félicité suprême d'un immortel. Mais il sourcilla, manifestant une petite gêne. L'un de ses orteils le démangeait et il ne pouvait pas se gratter. Comme c'était agaçant, insupportable même. Il remarqua enfin, à travers une trouée de brume, un humain minuscule, un misérable mortel, qui tenait à la main une masse. C'était un petit tailleur de pierre, un moins que rien, qui lui sapait le moral. Il n'y avait donc rien de plus puissant au monde que ce pauvre type. Et après le voyage magique que lui fit faire le sage, le tailleur de pierre se retrouva dans sa carrière, au pied de la montagne. Il admira le paysage, comme si ses jambes ne l'avaient jamais porté jusque-là. Puis il se mit à l'ouvrage, chantant à tue-tête. Le soir, il rentra chez lui, embrassa avec plaisir sa femme et ses enfants, qu'il trouva plus beau et plus vrai que les courtisans. Et plus jamais, il ne se plaignit de son sort. La morale du conte est assez évidente, mais encore faut-il la vivre. C'est que... C'est un peu cette morale que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Là, on fait une boucle complète entre un tailleur de pierre qui va rencontrer un notable qui se dit waouh, ouais, mais sa vie est tellement plus belle. Et ensuite, en tant que notable, il vit, mais il rencontre aussi un sage qui lui dit donc mais tu peux pas comprendre ce que tu ne connais pas. Et il lui fait donc expérimenter que tout ce qu'il imagine être mieux que sa condition à lui, ben peut-être c'est pas le cas. Et en se retrouvant bourgeois, il se rend compte que mince, mais en étant bourgeois, il y a un empereur qui est plus fort que moi. En étant empereur, il y a le soleil qui est plus fort que soi. Quand on est le vent, il y a les nuages. Quand on est le soleil, il y a les nuages. Quand on est les nuages, il y a le vent. Quand on est le vent, il y a une montagne. Mais quand on est une montagne, on ne peut rien faire contre un tailleur de pierre qui vient tailler la montagne. Il y a une espèce de cycle où chacun est à sa place juste. Encore faut-il l'accepter. Et c'est un peu, ça me fait penser à cette BD où on voit quelqu'un qui marche à pied dans une rue. Puis il se fait doubler par quelqu'un en vélo et puis il se dit waouh, lui il a un vélo, c'est trop stylé. On voit le gars qui est dans le vélo, qui est en vélo et qui se dit waouh, les gens ils ont des voitures, c'est trop bien. Là on voit quelqu'un qui est en voiture, qui voit quelqu'un passer avec une Ferrari, il se dit waouh, lui c'est vraiment une très belle voiture, il a trop de la chance, j'aimerais trop avoir ça. Ensuite on voit le gars qui est dans la voiture, qui se retrouve dans les embouteillages et qui regarde en haut et qui voit un PDG dans un hélicoptère et il se dit waouh, lui il a carrément un hélicoptère pour aller au boulot. Ensuite on voit l'image où il y a un PDG dans son hélicoptère, qui voit quelqu'un qui marche au bord de la route et qui se dit waouh, lui il a de la chance d'avoir le temps de pouvoir marcher, de pas être obligé de courir et de prendre son hélicoptère pour aller de réunion en réunion. Évidemment, la vie est un peu plus compliquée que ça, et tout n'est pas si négatif ni si simple, mais tout de même, je pense que ça fait écho. Moi, ça me rappelle vraiment les lectures de comment s'appelle-t-il? Oui, du désir mimétique de René Girard, qui nous montre qu'en fait, dans tous les mythes fondateurs, et c'est vrai pour nous tous, il y a toujours une espèce de clivage à un moment où les gens veulent la même chose. C'est presque grâce au désir, je désire ce que l'autre désire, ou ce que je pense que l'autre désire. C'est-à-dire qu'on est tellement peu au contact de ce qu'on désire nous, qu'en fait, on se retrouve à désirer ce qu'on pense que les autres vont désirer. Et bien souvent, dans la société, ça fait quoi? Ça fait une société de gens mécontents. Parce que peu importe ce qu'on est AIT, ou ce qu'on est EST, ça marche aussi, on souhaiterait toujours que ce soit différent. On va regarder quelqu'un à côté, on va se dire, waouh, ouais, mais si seulement. Sauf qu'en fait, ben, ce qu'on capte pas, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients à chaque situation. Peu importe là où tu en es dans ta vie, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Et peu importe qui tu admires ou tu dénigres, il y a autant d'avantages et d'inconvénients à être cette personne qu'il y en a à être toi, que ce soit une personne que tu admires ou que tu dénigres. Et cette personne a quelque part autant d'avantages aussi ou d'inconvénients dans sa vie. Mais évidemment, on ne connaît pas ça. Quelque part, il faut le vivre pour le sentir. Tu peux le sentir sur ta vie actuelle, parce que tu as peut-être déjà passé plusieurs stades, te rendre compte que je ne suis pas en train de dire que l'évolution n'est pas bien, au contraire. L'univers est en perpétuelle expansion et on doit aller vers toujours plus toujours plus d'évolution, toujours plus de création, ça c'est complètement ok, mais on a le droit d'y rajouter on va dire que c'est la composante yang ou masculine de l'univers. On a le droit d'y rajouter la composante un peu plus yin ou d'acceptation, d'amour, la composante féminine, qui va être que peu importe ce qu'on est en train de créer ou ce qu'on est en train de vouloir, on a aussi le droit d'apprécier ce qu'on est et ce qu'on a déjà. D'ailleurs, bien souvent, les deux vont ensemble. C'est en appréciant plus qui on est et ce qu'on a, qu'on a plus de chances d'être encore plus et d'avoir encore plus de choses. Bah oui, parce que ces choses soient des relations, des personnes dans sa vie, de l'argent, de la chance, qu'importe, de la santé. Pourquoi est-ce que plus de choses nous viendraient si on n'est pas déjà capable d'apprécier ce qu'on a? Est-ce que toi, en tant que personne, tu souhaiterais passer plus de temps avec un ami ou une connaissance qui ne t'apprécie pas? Ou au contraire, est-ce que si quelqu'un t'apprécie déjà tel que tu es, t'as envie de passer encore plus de temps et de lui offrir encore plus de ce que tu es? C'est un peu la même chose avec la vie. Je trouve que ce conte est assez beau. Il nous montre juste qu'en fait, on est à notre place et que toutes ces personnes dans ce cycle se comparent, mais dans le fond, elles n'ont qu'une seule chose à faire, déjà parce qu'elles ne peuvent... Fondamentalement, on ne peut pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, comme dans ce conte. Mais c'est ça qui est beau et triste à la fois. On ne le peut pas, et c'est ça qui fait se rendre compte qu'en fait, même si on le pouvait, on ne le voudrait pas forcément, parce que de toute façon, il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients à vivre ça. Mais je pense que c'est un peu un chemin d'une vie. En tout cas, c'est un conte, je trouve, qui nous rappelle, quoi, qui en tout cas moi me rappelle, dans ce terme de développement, qu'on a tous, on a tous un chemin à suivre. Nous sommes qui nous sommes, on a le droit de s'améliorer, mais on a aussi le pouvoir et le droit, le devoir, j'ai envie de dire, d'aimer qui on est maintenant et de ne pas vouloir copier quelqu'un. J'ai vu récemment, en rentrant d'une rando dans le Vercors, un tag sur un mur qui disait c'était quoi l'acte de copier, enfin il y avait quelque chose comme ça qui était un suicide quotidien. Le fait d'imiter quelqu'un était un suicide quotidien. Je crois que c'est Emerson qui disait ça, qu'en effet, que l'imitation c'est le suicide. Quelque part oui, parce qu'on est en train d'empêcher de faire naître qui on est vraiment là-dedans. Et en cherchant à vouloir être quelqu'un d'autre ou en pensant que ce serait mieux ailleurs, ben en fait, on oublie bien souvent d'apprécier ce qu'on a. Surtout que ce qu'on a déjà pour l'instant, c'est la seule chose qu'on a et qu'en plus, on se retrouve... Il y aura toujours quelqu'un d'autre pour vouloir ce que nous on a et ce que lui n'a pas, parce que lui non plus n'est pas dans notre peau. Et bien souvent, on reconnaît la valeur des choses qu'une fois qu'on les a perdues. Eh ben, j'ai envie de t'inviter aujourd'hui à te dire que peut-être que tu es déjà envieux du toi de demain qui se dit waouh, mais demain j'aurai atteint mes objectifs, j'aurai telle maison, j'aurai des enfants, j'aurai un couple, j'aurai fait telle vente, j'aurai qu'en sais-je de ce que tu auras. Et si en fait ce petit moine taoïste pouvait te mettre toi dans la peau de demain, est-ce que tu te retrouverais pas à faire aussi une boucle comme ça avec le toi de demain et le toi de demain et le toi dans un an et le toi dans un an et le toi dans un an, et qu'au final le toi dans 60 ans il souhaiterait qu'une seule chose, ce serait de revenir au toi d'aujourd'hui. Parce qu'en effet, il y a autant d'avantages que d'inconvénients à être le toi d'aujourd'hui, il y a autant d'avantages que d'inconvénients à être le toi de demain, dans un an, dans 2 ans. Et sauf que pour l'instant, tu n'as que la vision du toi d'aujourd'hui, mais dans 2 ans, tu auras probablement une autre vision, tu auras vu tout ce que tu voulais, et tu seras rendu compte aussi de tout ce que tu avais déjà aujourd'hui. Et c'est un travail de chaque instant à faire, mais je t'invite aujourd'hui à essayer d'invoquer ce petit moine taoïste à chaque fois que tu penses, que tu compares, tu te compares avec quelqu'un dans ta vie. C'est souvent ce genre de choses d'ailleurs qui peut mener au burn-out, de se retrouver à vouloir avoir une vie comme celle de quelqu'un d'autre, à essayer de, comme disent les Américains, to keep up with the Joneses, de se maintenir à niveau avec les John. John, c'est un nom de famille là-bas. C'est-à-dire essayer de faire comme les voisins, de garder le même train de vie que les voisins. Sauf que si tu fais ça sur un voisin, sur un deuxième, et que tu prends à chaque fois toutes les ce qui se voit de l'extérieur des autres et que tu essayes de keep up, de tenir, bah en fait, juste tu t'y perds parce que déjà c'est impossible. Et en plus, tu ne vois pas tout ce que les autres ne montrent pas ou n'osent peut-être parfois même pas ressentir. Alors voilà, l'invitation du jour, c'est de convoquer, et la prochaine fois que tu te dis, tiens, telle personne, j'aimerais bien être cette personne, ou elle doit l'avoir plus facile que moi, ou j'ai hâte à dans X jours, mois, années, te rendre compte que de toute façon, ce sera toujours plus de la même chose que ce que tu as aujourd'hui, ou qui tu es aujourd'hui, et que la question centrale sera toujours la même. Est-ce que j'arrive à continuer à grandir et à apprécier ce que j'ai? Et je pense que ça, c'est des points clés essentiels à atteindre pour ensuite pouvoir contribuer à l'épanouissement, à l'évolution et à l'épanouissement et l'amour collectif sur cette planète et de cette collectivité, et mettre en marche une somme d'individualité qui se développe tout en aimant là où ils en sont déjà. J'espère que ce podcast vous a plu. C'était Perspective, le podcast dans lequel on parle de développement personnel et transpersonnel. Et parfois, je parle un peu de moi, et en parlant de moi, qui sait, je parle peut-être aussi de toi. Si ça t'a plu, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur iTunes Podcast et à partager ce podcast à quelqu'un qui ça ferait du bien. Je t'embrasse.